France Culture.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, deuxième entretien. Conditions de travail de quelqu'un qu'on appelle encore un poète. Seconde partie.
Ce refus de la qualification de poète, vous dites que c'est à cause d'une certaine détermination qui vous est propre, qui fait que vous n'avez pas pu vivre autrement que par l'écriture et que par l'exercice et la pratique d'une certaine écriture. Mais je voudrais vous demander si vous ne pensez pas que ce refus recoupe un certain nombre d'expériences historiques fondamentales, dont d'ailleurs vous n'avez pas cessé de parler. Je pense à Lautréamont et je pense à Mallarmé, et que vous avez cette particularité de ne pas pouvoir faire comme si un certain nombre de textes fondamentaux n'avaient pas existé, alors que tout le monde, au fond, fait comme si ces textes n'avaient pas eu lieu, n'étaient pas opérants, effectifs. D'autre part, vous êtes déjà intervenu à la radio, et c'était en 1952, avec Breton et Reverdy. Je me rappelle très bien des entretiens et leur violence d'une certaine façon. C'est-à-dire que, aussi bien Breton que vous-même, aviez à ce moment-là fait des déclarations violentes qui semblaient marquer que le terrain était bloqué, qu'il n'y avait pas possibilité, au fond, de s'expliquer et de dialoguer avec la société culturelle telle qu'elle était faite à l'époque. Vous parliez vous-même de reconversion de l'industrie logique, comme devant être le travail premier, le travail essentiel que ce qu'on appelle encore poésie devrait s'attacher à faire. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a fondamentalement changé depuis, ou non?
En somme, vous m'avez posé successivement, à l'instant même, deux questions. Je réponds d'abord à la première. Il est un fait que j'ai écrit à plusieurs reprises le nom de Lautréamont ou celui de Mallarmé. Je prends par exemple un texte qui est à la fin d'un ouvrage intitulé « My Creative Method ». Le jour où l'on voudra bien admettre comme sincère et vrai la déclaration que je fais à tout bout de champ, que je ne me veux pas poète, que j'utilise le magma poétique, mais pour m'en débarrasser, que je tends plutôt à la conviction qu'au charme, qu'il s'agit pour moi d'aboutir à des formules claires et impersonnelles. On me fera plaisir. On s'épargnera bien des discussions oiseuses à mon sujet. Eh bien, ce texte répond aussi à votre interrogation « Pourquoi pas poète ?» Il est suivi presque immédiatement de la note suivante « Il faut travailler à partir de la découverte faite par Rimbaud et Lautréamont de la nécessité d'une nouvelle rhétorique. Rimbaud, je sais maintenant saluer la beauté. Lautréamont, un peu partout dans les poésies. » Et par exemple, je lis un passage de Lautréamont, « La mission de la poésie est difficile. Elle ne se mêle pas aux événements de la politique, à la manière dont on gouverne un peuple, ne fait pas allusion aux périodes historiques, aux coups d'État, aux régicides, aux intrigues des cours. Elle ne parle pas des luttes que l'homme engage par exception, avec lui-même, avec ses passions. Elle découvre les lois qui font vivre la politique théorique, la paix universelle, les réfutations de Machiavel, les cornets dont se composent les ouvrages de Proudhon, la psychologie de l'humanité. Un poète doit être plus utile qu'aucun citoyen de sa tribu. Son œuvre est le code des diplomates, des législateurs, des instructeurs de la jeunesse. Vous voyez qu'il y a là une conception de la poésie active qui est absolument contraire à celle qui est généralement admise à la poésie considérée comme une effusion simplement subjective, à la poésie considérée comme, par exemple, je pleure dans mon mouchoir ou je m'y mouche et puis je montre, j'expose ce mouchoir et voilà une page de poésie. Il s'agit évidemment de bien autre chose. Je l'ai dit, il s'agit d'une activité et d'un travail. Comment ces textes existants, le fait qu'on a jusqu'à présent, je reprends un texte de moi dont je vous ai cité le début tout à l'heure, il faut travailler à partir de la découverte faite par Rimbaud et l'autre Hamon de la nécessité d'une nouvelle rhétorique, et non à partir de la question que pose la première partie de leurs œuvres. Jusqu'à présent, on n'a travaillé qu'à partir de la question, ou plutôt à reposer plus faiblement la question. Et ici, je rejoins et je commence à répondre à votre seconde question. Quand j'ai parlé au cours de mon entretien avec Breton et Reverdy de 1952, d'une reconversion de l'industrie logique, il s'agit exactement de cela, n'est-ce pas? Il s'agit que le rôle positif de la poésie s'exprime enfin, que s'il ne s'agisse plus des gémissements et de tout ce que l'autre et Hamon classe, par exemple, dans les grandes têtes molles, n'est-ce pas? Il s'agit que le rôle positif de la poésie, que je viens de définir comme une activité qui donne les lois de la politique, de la morale, que la poésie soit considérée ainsi. À propos de cet entretien avec Breton et Reverdy, qui a donc eu lieu en 1952, c'est-à-dire il y a maintenant 15 ans, eh bien, vous me demandez si j'ai l'impression que quelque chose a changé. Oui, dans une certaine manière, non, d'une autre manière. Est-ce que cela a complètement changé? Non. La seule preuve en est que je suis obligé de revenir sur cette question parce qu'il me semble que ce que nous avons dit à l'époque n'est pas passé. À propos de cela, un nouveau texte de l'autre Hamon. La poésie personnelle a fait son temps de jonglerie relative et de contorsion contingente. Reprenons le fil indestructible de la poésie impersonnelle. Les notions de la simple raison sont tellement obscurcies à l'heure qu'il est que la première chose que font les professeurs de quatrième quand ils apprennent à faire des vers latins à leurs élèves, jeunes poètes dont la lèvre est humectée du lait maternel, c'est de leur dévoiler par la pratique le nom d'Alfred de Musset. Je vous demande un peu, beaucoup. Les professeurs de troisième, donc, donnent dans leur classe à traduire en vers grecs deux sanglants épisodes. Le premier, c'est la repoussante comparaison du pélican. Le deuxième sera l'épouvantable catastrophe arrivée à un laboureur. Pourquoi pencher la tête d'un lycéen sur des questions qui, faute de n'avoir pas été comprises, ont fait perdre la leur à des hommes tels que Pascal ou Byron? Un élève m'a raconté que son professeur de seconde avait donné à sa classe, jour par jour, ces deux charognes à traduire en vers hébreux. Ces plaies de la nature animale et humaine le rendirent malade pendant un mois qu'il passa à l'infirmerie. Comme nous nous connaissions, il me fit demander par sa mère. Il me raconta quoiqu'avec naïveté, que ces nuits étaient troublées par des rêves de persistance. Il croyait voir une armée de pélicans qui s'abattaient sur sa poitrine et la lui déchiraient. Il s'envolait ensuite vers une chaumière en flammes. Il mangeait la femme du laboureur et ses enfants. Le corps noirci de brûlures, le laboureur sortait de la maison, engagé avec les pélicans un combat atroce. Le tout se précipitait dans la chaumière qui retombait en éboulement. De la masse soulevée des décombres, cela ne ratait jamais. Il voyait sortir son professeur de seconde, tenant d'une main son cœur, de l'autre une feuille de papier où l'on déchiffrait en traits de soufre la comparaison du pélican et celle du laboureur, telle que Musset lui-même les a composées. Il ne fut pas facile au premier abord de pronostiquer ce genre de maladie. Je lui recommandai de se taire soigneusement et de n'en parler à personne, surtout à son professeur de seconde. Je conseillai à sa mère de le prendre quelques jours chez elle en assurant que cela se passerait. En effet, j'avais soin d'arriver chaque jour pendant quelques heures et cela se passa. Il faut que la critique attaque la forme, jamais le fond de vos idées, de vos phrases. Arrangez-vous. Eh bien, ceci pour dire que ça ne s'est pas passé non plus pour nous. Il faut que nous revenions pendant quelques heures ou quelques minutes pour que l'on entende que il faut que la critique attaque la forme de vos phrases et non le fond. Arrangez-vous. Donc, ça ne s'est pas passé complètement. Il faut que nous revenions, nous revenons. Ce qui a changé, c'est que il s'avère que depuis quelque temps, et cela est récent, il est clair que maintenant, la culture tourne autour d'une science. De quelle science? Eh bien, de la linguistique. Les sciences humaines, dont la linguistique fait partie, ont fait de grands progrès, ou plutôt, si l'on veut, sont venues à la surface de façon éclatante depuis peu de temps. Et peut-être justement, cela s'est-il passé depuis 1952. Il me semble que, actuellement, on n'est pas loin de considérer que le discours sur la littérature, entre guillemets, la poésie, entre guillemets, l'art en particulier, sera de moins en moins métaphysique et de plus en plus scientifique. Pour moi-même, en ce qui me concerne, il se trouve que je ne suis plus en cet instant même en entretien avec des poètes, mais avec, vous permettez cette expression, plutôt un anti-poète, et plutôt quelqu'un qui se voue à un travail de l'ordre scientifique. Il se trouve que les hommages à des poètes, comme ceux qui ont lieu très souvent, eh bien, ne contiennent plus aucun texte de moi que je n'y collabore pas. Il se trouve que les revues de florilèges poétiques reçoivent de plus en plus rarement des textes de moi. Il se trouve que je les donne plutôt à une revue, pourquoi ne pas dire son nom tel quel, où l'on s'occupe de problèmes en liaison avec les sciences humaines telles que je viens d'en parler.
Oui, vous savez que nous nous attachons en fait à faire ressortir une coupure qui pour nous n'est pas suffisamment vue dans l'histoire et qui porte justement sur Lautréamont, Mallarmé ou Rimbaud en effet. Et c'est en tant que vous avez été, je crois, le seul à interpréter cette coupure de façon conséquente que je m'adresse ici à vous. Car dès 1926, la note que vous écrivez sur Mallarmé fait justice immédiatement de toutes les interprétations classicistes de Mallarmé, en même temps que des régressions. Je pense ici par exemple à Claudel qui parle de l'échec de Mallarmé, par exemple, n'est-ce pas ? La catastrophe d'Igiture, n'est-ce pas ? C'est un propos absolument scandaleux. Eh bien, je crois qu'en effet nous en sommes, en ce qui concerne Mallarmé, toujours là. Il est toujours question de stérilité, d'impuissance, d'échec, c'est-à-dire qu'il y a une manière d'échouer devant la lecture de ces textes qui me paraît justement ne pas être votre fait, et cela lié à votre écriture même.
J'ai beaucoup parlé et cité le Tréhamon jusqu'à présent, et je dois, parce que c'est la vérité, faire place à Mallarmé, qui a eu beaucoup d'importance pour moi. Mais à propos de ces deux écrivains, qui sont, comme Rimbaud, comme d'autres, définitivement classés dans les manuels, dans les histoires de la littérature, dans les collections, comme poète, eh bien, je voudrais faire remarquer qu'en fait, ce qui subsiste d'eux, c'est surtout ce qu'ils ont pu écrire en prose. Prenons Rimbaud, par exemple. Eh bien, à l'époque de ma jeunesse, on ne connaissait dans les anthologies, dans les manuels de littérature, que des textes, enfin on mettait en avant, surtout le bateau ivre, n'est-ce pas, qui était évidemment la première chose qu'on vous faisait lire de Rimbaud. Le bateau ivre, le sonnet des voyelles, voilà à quoi se réduisait le Rimbaud public. Alors qu'il est évident, et que cela est venu d'ailleurs en surface par la suite, que le Rimbaud le plus important est celui de la saison, naturellement, et des illuminations, en prose. Si nous prenons Lautréamont, il est clair que ce qui a pu être considéré comme purement poétique, c'est-à-dire les chants de Maldoror, ont été republiés uniquement jusqu'au moment plus tardif où on a donné aux poésies, qui paradoxalement sont ce qu'il y a de plus prosaïque pour la forme, enfin, dans Lautréamont, ont pris leur importance relative. Pour ce qui concerne Mallarmé, n'est-ce pas, il est clair que, alors qu'on donnait à lire le recueil de poésie de Mallarmé, avec une importance très exagérée d'ailleurs à l'intérieur de ce recueil de poésie donné au premier poème de Baudelaire, à ce qu'il a... de Mallarmé, pardonnez-moi, mais je sais la raison de ce lapsus, n'est-ce pas ? C'est parce que ce sont des poèmes baudelairiens et que Mallarmé a quasi désavoué par la suite lui-même. Et ensuite, les textes comme les éventails ou les petits textes qui ont le caractère de bibelot, en quelque façon, étaient mis en avant, alors qu'il s'avère de plus en plus que les textes les plus importants de Mallarmé, qui désavouent sa classification, ou plutôt les jugements sur son échec, n'est-ce pas, eh bien, sont les textes en prose, comme naturellement d'abord le coup de dé, et ensuite les divagations, n'est-ce pas. Si on appelle l'échec de Mallarmé quant à avoir fait le livre dont il rêvait, n'est-ce pas, et si on le taxe de stérilité, etc., comme on l'a fait, eh bien, c'est parce qu'on a tendance à mettre presque à sa hauteur, et quelquefois même plus haut que lui, des réussites, des réussites comme les grands poèmes de Valéry, n'est-ce pas ? Vous avez dit de Claudel ce qu'il fallait dire en ce qui concerne son jugement scandaleux sur Mallarmé. Mais moi, je voudrais, alors que j'admire énormément certains textes de Claudel, je voudrais dire que les poèmes de Valéry me paraissent, et je l'ai dit déjà dans le petit texte sur Mallarmé que vous avez cité, qui est 1926, que là où Mallarmé me fait l'effet d'un cristal, eh bien, je ne sais pas si un cristal est réussi ou non, pour moi, il l'est. Valéry me fait l'effet de verre soufflé, n'est-ce pas, et de quelque chose de vraiment très mauvais, d'une part par rapport à Mallarmé, et d'autre part par rapport à certains textes en prose de Valéry qui, évidemment, conservent leur importance. Je parle de la soirée avec M. Test et d'autre part des textes qu'on retrouve maintenant dans ces carnets, n'est-ce pas, qui sont évidemment la chose la plus importante.
Vous venez d'entendre le deuxième de la série des entretiens avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, conditions de travail de quelqu'un qu'on appelle encore un poète, seconde partie. Assistant Jacques Devin. Vendredi 21 avril à 22h40, troisième entretien, le début du 20e siècle vécu.